On se retrouve aujourd'hui à la librairie Mosaïque qui ont invité Isabelle Touré, alias Isa Vitarel, pour son roman L'ombre d'un ami, une rencontre en extérieur, une rencontre signature en ce samedi matin 11 septembre. Bonjour Isa.
Bonjour.
Voilà, tu as écrit L'ombre d'un ami. Donc on suit deux personnages aux âges différents qu'un triste événement va rassembler. Sylvain, la trentaine, tente de vivre sa vie en accord avec ses convictions. Doté d'une grande sensibilité altruiste, il défend les réfugiés, les migrants, les amigrants, comme il les nomme. Défend sa liberté et aide les autres à tenter de retrouver la leur. Et puis on suit aussi l'autre personnage principal, dirons-nous, mais le livre est doté de beaucoup de personnages secondaires, qui est Marianne, une femme d'un âge plus mûr, travailleuse sociale, elle aussi par conviction, très soucieuse des autres également. Et qui constate, qui voit son environnement professionnel se dégrader au fil des années, bien entendu par manque de moyens et de courage politique, et qui devient témoin justement de ce préjudice humain qui en découle. On va rester vague pour pas dévoiler, bien entendu, les grands événements de ce livre qui s'appelle L'ombre d'un ami, je le rappelle. Un événement dramatique va les réunir. Ils vont se découvrir des points communs. C'est aussi l'histoire, bien entendu, de beaucoup de personnages secondaires. Je pense à Rémi, le
Le
frérot,
frérot.
voilà, le frérot de Sylvain, Mounir, l'ami, et Mamilène, la grand-mère de Sylvain. Voilà. Est-ce que vous pouvez en rajouter un petit peu plus sur cette description du livre?
Oui, parce que je crois que ce qui était important pour moi, et c'est le titre, le dit, L'ombre d'un ami. Alors, je peux peut-être expliquer un petit peu ce titre, parce que on pourrait penser que c'est négatif, L'ombre d'un ami. Et en fait, ça vient d'une phrase de Montaigne dans les essais, sur l'essai sur l'amitié. Cette fameuse partie où il parle de son amitié avec Étienne de la Boétie, où il dit, parce que c'était lui, parce que c'était moi, tout le monde connaît cette phrase, mais il dit une autre phrase à un moment donné, il écrit, il parle d'un poète ancien qui était un peu son mentor, il dit, le poète Ménandre disait celui-là heureux qui avait pu rencontrer seulement l'ombre d'un ami. Ce qui veut dire, on n'a pas besoin d'avoir des milliers d'amis comme sur Facebook ou autre réseau social, mais l'ombre d'un ami ne serait-ce que ça. Et moi, c'était mon fil conducteur de me dire que finalement, dans le monde actuel tellement troublé, peut-être que j'aime bien dire que peut-être que l'amitié est le véritable sentiment révolutionnaire. Voilà, tendre la main, être en amitié à un moment donné. Même de façon très courte, voilà, ça peut changer la vie de quelqu'un. Pas seulement celui qui tend la main, mais surtout celui à qui la main est tendue. Ça peut changer la vie de quelqu'un, quoi. Voilà.
Donc on suit ces deux personnages sur un temps d'une année environ.
Voilà, un petit peu plus d'une année, oui, un petit peu plus d'une année, entre 2017 et 2018, si on se rappelle, ben c'est en pleine période d'élection présidentielle, l'ascension au pouvoir d'Emmanuel Macron, et ça a des incidences, des décisions qui ont eu des incidences aussi sur la vie de ces personnages, mais c'est le monde d'aujourd'hui, là c'est ciblé dans cette période-là, mais c'est le monde d'aujourd'hui, de la même façon. On sait que ça se passe dans le sud-est de la France. Ça pourrait se passer pas très loin d'ici, du côté de Gap. Ça pourrait être un petit peu plus haut, du côté de Grenoble aussi. Ça pourrait être un petit peu plus bas, du côté du Mercantour, puisqu'ils vivent aussi cette réalité. C'est un hommage aussi à quelqu'un comme Cédric Herrou, qui est un paysan. Et qui l'est toujours, mais qui, pour X raisons, en est arrivé à aider des personnes qui passaient la frontière et qui se retrouvaient sur son terrain.
L'idée de départ de ce livre, justement, alors ça, voilà, ça collait à une actualité politique à l'époque. J'imagine que ça a été écrit dans cette période-là. On ne sait pas exactement où ça se passe. Néanmoins, il y a un hôpital, pas loin, qui va mal. Et vous décrivez beaucoup cette situation-là aussi, pas que celle des migrants. En fait, on est sur un peu deux points de vue. On est sur la santé et sur l'accueil des flux migratoires. Quelle a été la motivation de la genèse de ce livre?
Bon, alors là, il faut que je parle un petit peu de moi en tant que professionnelle, parce que d'abord, j'ai été éducatrice pendant plus de 20 ans, donc c'est un milieu que je connais bien, l'accompagnement de personnes en grande difficulté. Et puis, depuis que je suis psychothérapeute, depuis 2003, j'accompagne des travailleurs médico-sociaux, des éducateurs, des soignants, dans leur métier au quotidien. Donc j'ai rencontré beaucoup de ces travailleurs-là et j'ai vu petit à petit se dégrader les conditions de travail de ces professionnels. Ces professionnels, moi je n'ai rencontré que des professionnels compétents, qui aiment leur travail, engagés, qui veulent que ça se passe bien et qui sont complètement déroutés, c'est même plus que ça, qui sont... fracassés pour beaucoup par leurs conditions de travail, des changements dans la façon de gérer l'hôpital, notamment comme une entreprise. Tout le monde en connaît les dérives et la crise sanitaire, évidemment, a mis au devant de la scène toutes les difficultés que ces gens pouvaient vivre au quotidien depuis des années. Et donc... Il se trouve qu'un jour, dans un groupe que j'animais avec des travailleurs médico-sociaux, il y a eu un débat avec des personnes qui, je ne veux pas en dire plus sur ni leur profession, ça, parce que je veux stigmatiser personne, mais qui avait un débat assez houleux entre différents professionnels, justement parce qu'ils étaient débordés par l'arrivée de personnes réfugiées, femmes avec enfants ou sans enfants, familles, etc. Et qu'on leur demandait toujours d'en faire plus, alors qu'ils ne pouvaient déjà pas s'occuper des personnes qui étaient déjà sur le territoire. Et j'ai vu des réactions et j'ai entendu des réflexions qui m'ont, dans un premier temps, choquée, je dois le dire, parce que des travailleurs médico-sociaux qui en arrivaient à dire « mais ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays » ou qui disaient « mais s'ils ne sont pas contents quand on leur donne des vêtements parce qu'ils sont passés à la mode, ils n'ont qu'à retourner chez eux ». Et en fait, très vite, je me suis dit « mais ça, c'est autre chose qui s'exprime là, c'est une colère parce qu'ils sont démunis eux-mêmes ». Et on a travaillé là-dessus, les choses ont évolué, on a pu en parler, tout ça. Et moi, j'étais déjà en train de réfléchir à ce livre autour de ce que vivent les travailleurs médico-sociaux. Et comme à côté de ça, il y avait toute la crise migratoire de 2015 qui commençait à vraiment à faire sentir les effets sur voilà. J'ai mélangé ces deux grandes crises d'une certaine manière, celle des travailleurs médico-sociaux, celle leurs préoccupations au quotidien, la dégradation de leurs conditions de vie et en plus la confrontation aussi avec ces réfugiés qui eux n'ont rien et qui sont complètement perdus, démunis. Pas que, on voit dans le roman que c'est pas aussi simple que ça et que c'est pas aussi rose que ça. Hein. Enfin, rose, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas aussi simple en tout cas. On a beaucoup d'a priori, on a beaucoup de jugements dans un sens ou dans l'autre, mais les choses sont toujours plus complexes. Ce que j'essaye de montrer aussi. Voilà. Donc c'était ces deux grandes lignes, les travailleurs médico-sociaux, leur vie, leur engagement, leurs difficultés, et puis à côté de ça, l'arrivée de ces réfugiés et comment on les accueille ou pas.
Tous les personnages que vous décrivez dans ce roman sont tous empreints d'une grande humanité. Ils sont tous assez en accord, ils sont tous très bienveillants les uns envers les autres. Est-ce que ça a été un choix de mettre en place cette mécanique qui fait que finalement ils se rendent plus forts ensemble grâce à cette humanité, à cet humanisme, pardon, contre le reste du monde, contre la politique qui ne va pas, l'hôpital qui part en sucette.
Alors oui, À la fois, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques personnages qui sont un tout petit peu... bien sûr, on pourrait dire que c'est un peu manichéen. Il y a les bons et les mauvais, un peu tranchés. Je tiens à dire que ce que je raconte dans ce roman, qui n'est absolument pas autobiographique, ça parle pas de ma vie à moi du tout, si ce n'est ma vie professionnelle d'une certaine manière, mais je tiens à dire que tout ce que je décris, je l'ai entendu, je l'ai vécu. Donc des gens comme ça, ça existe. Et c'était le pari que je faisais, c'était de dire, moi je trouve que, parce qu'on me dit souvent, c'est plein de ça pourrait, la critique qu'on pourrait faire, c'est que c'est plein de bons sentiments. Et on me le dit pas tout à fait comme ça, mais moi je le dis comme ça. Et oui, et ça c'était une volonté, parce que je pense que on crève de mauvais sentiments. On crève de haine, de peur, de repli sur soi, etc. Et j'avais vraiment décidé de montrer que autre chose est possible. Et des gens comme Sylvain, comme sa grand-mère Mamilène, qui est un personnage important du roman, ils existent. J'en connais et ils existent. Et j'avais envie de montrer ça, quoi. C'était un choix tout à fait conscient d'aller vers ce type de sentiment.
On ressort de ce livre avec de l'espoir, bien sûr, pas forcément de solution, parce que les problèmes sont toujours là. Là, par exemple, Marianne, travailleuse sociale, a une hiérarchie complètement exécrable, et Sylvain s'oppose forcément à la politique anti-immigration qui existe dans le pays. Néanmoins, ils arrivent à faire des choses. Vous avez noté Cédric Héroux, on tend vers ça, effectivement, vers ce besoin de se rassembler au-delà des professions et des âges aussi.
Oui, et même, c'est une petite phrase à un moment donné, je ne vais rien dévoiler de ça, mais vers la fin du livre, il y a aussi une situation dramatique pour un des personnages qui sont très proches de Sylvain et de Marianne. Et ils font à un moment donné un peu silence autour de tout ce que ça pourrait provoquer, parce que ensemble ils savent qu'ils sont forts, les trois ensemble ils sont forts, séparément ou si on commence à se tirer dans les pattes, on va à la catastrophe, chacun individuellement et les trois ensemble. Donc je crois à ça, enfin, tous les jours j'ai des contre-preuves de ça. Évidemment, dans ma propre vie, sans doute. Moi, j'essaye en tout cas de ne donner de leçons à personne. Je veux surtout pas faire ça. Je sais juste que j'ai rencontré des gens merveilleux dans mon travail, dans mon travail, dans ma vie personnelle, qui donnent de leur temps, qui donnent de l'espoir à des gens qui n'en ont plus.
Et puis la construction de ce livre nous amène aussi à des moments épistolaires. On n'est plus du tout dans le même lyrisme et on utilise des codes qui étaient ceux d'avant, peut-être parfois, oui, sur justement ces écrits d'amitié, de grande amitié. Et cette grande amitié, donc c'est entre Sylvain et Marianne, on peut le dire quand même, se dévoile beaucoup dans ces lettres.
Oui, là c'est pareil, il y a les pour et les contre dans les lecteurs. Il y a ceux qui me disent « Ah, c'est une respiration, c'est bien vu, c'est un hommage plus ou moins appuyé aux liaisons dangereuses, hein, puisqu'il y a un peu ce même système d'échange avec la date à la fin. Bon, voilà. Mais, et puis, il y a ceux qui n'aiment pas du tout. Bon, tout le monde a le droit, qui me disent « Oh, c'est pas... » La critique qui m'est faite régulièrement, c'est un peu trop le même ton entre les deux personnages. Ils écrivent de la même façon, alors que c'est un homme de 30 ans et une femme entre 55 et 60 ans. Mais c'est voulu, parce qu'ils jouent, c'est dit aussi à un moment, ils se mettent à jouer à la faveur d'une première lettre de Marianne. Ils se mettent à jouer ce style-là, ils se vouvoient, ils jouent avec ça. Et j'aimais que dans ce moment dramatique, parce que c'est un des moments les plus dramatiques du livre, eh bien, il y a cette légèreté que la rencontre... et puis, ils parlent de la même façon, ils écrivent de la même façon, à 30 ans de différence. Et c'est pas pour rien, c'est justement parce qu'ils se ressemblent qu'ils écrivent de la même façon. Moi, je l'ai voulu comme ça, j'avais tout à fait conscience, je ne voulais pas, j'aurais pu faire un langage plus Jones pour Sylvain. Mais ils ne se seraient pas rencontrés, peut-être, s'ils n'avaient pas cette chose en commun. Voilà.
Et puis, le livre est aussi rythmé de beaucoup de citations, et notamment musicales. On a Brassens, oui, qui revient, Léo Ferré aussi, oui, et Renaud.
Ce sont un peu mes idoles, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, j'ai 62 ans, j'ai grandi avec Brassens, Ferré, Ferrat, tout. Et puis aussi, bien sûr, tout le rock et la pop de ces années-là, mais ça coïncidait moins avec, pour moi, ça venait moins naturellement. Et Renaud qui pour moi représente justement... tellement, on a eu tellement d'espoir, et puis l'évolution de cet homme qu'on connaît, hein, sur laquelle je porte aucun jugement, parce que je le fais dire à Marianne, mais c'est ce que je pense, je l'ai trop aimé pour lui en vouloir. Donc restent ses chansons, reste la poésie, et c'est ça qui est le plus important. Et alors les petites phrases, c'est aussi... c'est aussi une petite manie que j'ai en tant que psychothérapeute et formatrice. Je donne comme ça des petites phrases aux gens parce que c'est comme des petits cailloux qu'ils peuvent garder, des petites choses qu'ils peuvent garder. Et dernièrement, j'ai rencontré une dame dans un supermarché qui est venue me voir en me disant « Vous me reconnaissez, j'étais dans un de vos groupes il y a 10 ans. » Je dis « Oui, je vous reconnais, bien sûr. » Elle me dit « Vous savez, je pense souvent à vous. » J'ai toujours les petites phrases que vous nous donniez, elles me reviennent régulièrement, je m'en sers toujours. Alors c'était un grand bonheur, quoi, vraiment, voilà. Et donc j'ai l'habitude de faire ça. C'est pas, j'espère que ça fait pas étalage d'une culture que je n'ai pas, ou voilà, hein, vraiment pas. Mais pour moi, ce sont des points de repère aussi intellectuels.
Et je citerai d'ailleurs une qui est assez étonnante. Il n'est pas de pire tyrannie que de vouloir le bien d'autrui. À vérifier, qui serait de Emmanuel Kant.
Oui, c'est une phrase qu'on prête à Emmanuel Kant, effectivement. Moi, je n'ai pas réussi à en trouver la source certaine, donc je le précise, mais je trouve cette phrase extraordinaire. Je la dis souvent aux travailleurs médico-sociaux et je me l'applique en tant que psychothérapeute, puisque donc, j'écris des romans, mais je suis toujours en activité comme psychothérapeute. Il n'est pas de pire tyrannie que de vouloir le bien d'autrui. Ça paraît contre-intuitif quand on le dit comme ça. Dire, mais enfin, quand on veut le bien d'autrui, c'est pas par tyrannie. Si on insiste trop, si on veut sauver les gens malgré eux, si on impose un modèle qui serait le bon pour sauver quelqu'un, alors on devient tyrannique. Et il faut faire attention à ça. C'est toute la question de trouver dans toutes les relations, je pense, bien sûr, comme dans le travail social, etc. Mais dans toutes les relations, de trouver ce qu'on appelle la juste distance, et que j'aime bien compléter en disant avec la juste proximité. Trouver la juste distance et la juste proximité, ne pas envahir l'autre. Vous savez, on dit souvent se mettre à la place de l'autre. Mais moi, je n'ai pas du tout envie qu'on se mette à ma place. Ma place, c'est ma place, et je voudrais respecter celle de l'autre. Et donc, moi, je pense plutôt à faire la place à l'autre. Si je devais résumer mon roman, ce serait peut-être plus ça. Ce n'est pas me mettre à la place de l'autre, la fameuse empathie qui fait qu'on enduit l'autre de son empathie et on le paralyse parfois, d'où la tyrannie, mais de lui faire la place. Voilà. Et ça, c'est un peu mon leitmotiv.
Et la citation de cette phrase marque le contrepoint également à ces critiques de bienfaisance, de bien-pensance qui pourraient découler de ce livre qui, effectivement, nous plonge dans un univers un peu feel-good, mm-hmm, où les choses se passent bien, les rencontres se font.
Pas toujours, on se rend compte notamment dans un relais d'asile pour les personnes réfugiées, là, où ça se passe pas forcément super bien et où il y a des rixes Et ça, c'est la réalité aussi, et il ne faut pas la nier. Mais effectivement, c'est Marianne qui cite cette phrase pour dire à Sylvain, peut-être à un moment, elle lui dit « pédale douce, quoi, hein, t'es bien gentil, mais on ne peut pas aider les gens malgré eux, et puis il faut leur laisser aussi le choix de ce qu'ils vont vouloir ou pas de nous. » Voilà. Et ça, c'est très difficile. Franchement, c'est très, très difficile. C'est la chose la plus difficile quand on fait ce genre de métier ou qu'on essaye ça, de rester à la juste place, à sa juste place, et de laisser à l'autre sa juste place. C'est un pari, hein. Franchement, c'est un pari, mais moi, j'ai essayé et je suis sûre de ne pas y être arrivée. Mais je continue à essayer. Voilà.
Finalement, c'est le chemin qui est important et non pas l'arrivée.
Oui, c'est ça, le but, c'est le chemin. Ouais.
Vous éditez ce livre en auto-édition ?
Oui. Oui, j'ai essayé, je l'ai envoyé, j'ai envoyé le manuscrit à plusieurs éditeurs, à maisons d'édition. J'ai reçu des retours très rapides et très encourageants, mais pas de proposition de publication. Et puis, pendant le confinement, le premier, j'ai décidé de le publier en auto-édition, mais en numérique d'abord. Et les premiers lecteurs m'ont dit « Non, mais c'est pas possible, il faut que ça soit en version papier, parce que d'abord, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire en numérique. » Et puis, qui m'ont dit « il faut que ça soit publié en papier. » Alors, j'ai trouvé une plateforme d'édition. En auto-publication, quoi. Donc voilà, et pour l'instant on ne le trouve qu'à la commande, mais dans toutes les bonnes librairies de France on peut le commander, et quelques jours après on le reçoit chez son libraire, voilà, et c'est très simple. Alors évidemment après il y a les sites aussi sur lesquels, mais moi je dis toujours allez chez votre petit libraire, ça ira très bien comme ça.
Des projets ?
Oui, je suis en maturation lente en ce moment sur un autre projet. Je connais la période où ça se déroule, je connais le titre, je connais le thème principal, je connais les personnages principaux, mais je n'ai pas encore suffisamment de clarté, de voilà, il y a des choses, je laisse mûrir pour l'instant, voilà, je me laisse envahir et gagner par différentes choses, ça va venir j'espère dans l'année qui vient.
Dans les 2-3 prochains confinements.
Non, ne dites pas ça. Celui-là, je l'ai écrit avant, hein, celui-là. Je l'ai écrit je l'ai commencé en juillet, enfin, j'ai travaillé dessus de 2016 et 2017. Réunir, interviewer des gens, réunir des infos, tout ça. Et je l'ai écrit entre juillet 2018 et juin 2019. Donc avant le confinement, j'ai décidé. Et puis à partir d'octobre, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Et puis après, avec les retours, là, j'ai décidé de le publier en auto-édition. Voilà. Il faut du temps. Il faut du temps pour... en tout cas, il me faut du temps pour que ça mature. Puis je travaille encore un peu. Donc voilà, je n'ai pas tout le temps que je voudrais. Mais j'aime bien cette période aussi de gestation. Là. Voilà.
Isabelle, merci beaucoup.
Merci à vous, merci.